Le maître du mont Xin, Gérard Adam. Un liséré de nacre muant les stampes, les branches du V que dessinent entre leurs pentes les monts Karam et Futog. Soinda suspend sa marche. De la pointe inversée fuse un pinceau, pareil à ces cavaliers dont la tumultueuse avant-garde annonçait jadis au peuple de Melgor la venue de l'empereur. Soudain, elle est dans la lumière, fugitive conscience d'être parcelle du tout et néanmoins distincte. Singa s'est aussi arrêtée. Elle a posé son fardeau et la dévisage. Soinda lui sourit. « Dis-moi, comment trouves-tu le maître ?» La jeune fille hausse les épaules. À chaque lune, un peu plus vieux, plus intemporel. Les rayons font chatoyer les tuiles des monastères. Batifoles parmi les clochettes, débusquent peu à peu les ombres dans la vallée. Pas plus qu'hier, dans l'autobus qui l'emportait du petit aéroport au cœur de la cité, Soinda ne reconnaît les lieux de son enfance. Des tours de béton sale masquent les toits des temples. Des fabriques ont écrasé les masures, envahi les abords du lac où fillette est allée couper joncs et bambous. Leurs cubes sans beauté grignotent même le pied des monts Karam et Futog, autrefois couverts d'une forêt dense. Les enfants de Melgor s'y usent les yeux et voûtent le dos en fignolant de leurs doigts lestes ces futilités dont là-bas est avide. Les enfants d'ici participent au labeur dès qu'ils se tiennent debout. Ils le font depuis la nuit des temps. Mais il n'y a plus guère qu'eux pour gagner leur riz à Melgor. Et ce qu'on y produit s'écoule de moins en moins, grommelait hier sa voisine dans le bus. En contrebas, les moniales se mettent en route vers le monastère des moines pour la sublime communion rituelle des essences mâles et femelles. À la pleine lune, les moines feront la route inverse. Au moins, cela n'a pas changé. Les deux femmes repartent. Le chemin est long jusqu'à l'ermitage, raide, semé de roches coupantes. Plus austère que ces deux vis-à-vis, plus escarpé, le mont Xin, de mémoire de légende, héberge le maître ermite, qui, de sa retraite, veille sur l'âme de Melgor. Comme aujourd'hui Singa, cinq années durant, à chaque nouvelle lune, par la neige ou la canicule, Soinda jadis apportait au maître le riz, le thé, le sel, et pratiquait avec lui la communion sublime. Jusqu'au jour où, gravissant le mont Xin, elle a su, ou cru savoir, qu'elle n'en redescendrait plus. « Ma Soinda, là-bas, est-ce vraiment comme on le dit ?» Et que dit-on ? Geste évasif. Qu'on y puise lait et miel sans même se baisser. Y pratique sans rite ni entrave, quand et avec qui l'on veut, la sublime communion des essences. Y reforge même les corps usés, afin qu'hommes et femmes restent désirants et désirables jusque dans leur grand âge. Singa ruminait sa question depuis qu'aux premières lueurs, les deux femmes ont poussé dans l'air frais la porte du monastère. La veille, lorsque Soinda a demandé à Mayarma de l'accueillir à nouveau comme la plus humble de ses moniales, son amie d'enfance, compagne d'initiation, aujourd'hui supérieure, a dû faire appel à toute sa maîtrise pour refouler cette même question. Nul ne soupçonne ce qu'a été sa vie depuis qu'elle a quitté le mont Xin. Pour toutes et tous, après l'avoir agréée près de lui durant cinq autres années, le maître a envoyé Soinda là-bas pour y porter son rayonnement. Quand là-bas, insidieux, assourdissait ici le rayonnement du maître. Si très peu depuis son départ semble avoir changé dans la vie des moniales et des moines, le peuple de Melgor se gave des reflets de là-bas. Or, moines et moniales, par l'initiation des esprits et des corps, les soins aux esprits et aux corps, les rites de séparation de l'esprit et du corps se mêlent au peuple de Melgor. Et le maître le sait. Nul disciple n'a trouvé place à l'ermitage, a soupiré Mayarma. S'il en est bienvenu, il les a renvoyés. ne les jugeant pas dignes. Nul ne pourra lui succéder. Avec sa mort, que l'on redoute prochaine, va s'éteindre la lignée des maîtres ermites du mont Xin et leur rayonnement dans la vallée de Melgor. Entendant ces paroles, Soinda lui a demandé la permission de se rendre en ultime pèlerinage au lieu où, 5 années durant, elle a vécu dans l'ombre et au soleil du maître. « Dis-moi, Singa, le maître, est-il vraiment comme on le dit ?» Un pli concentré par le front de la jeune fille. À toute question répond une question. La réponse qu'on lui donne doit éclairer les deux. Elle éclate de rire. « Je ne l'ai jamais vu léviter, comme dans nos légendes, ni converser avec un tigre, un ours ou un cobra. Et pour ce qui est de la sublime communion rituelle des essences, petite moue désabusée, le maître lui-même ignore les recettes qui, là d'où revient Masoinda, reforgeraient les corps usés. Il en va de même avec ce qu'on prétend de là-bas. » Le sentier s'insinue dans une faille. Elle pénètre une couche de nu où rien au-delà de chaque pas ne se dévoile. « Ainsi cheminent les vies, médite Soinda. Melgor a disparu, les monastères aussi, et les monts Karam et Futog, jadis compagnons de chaque instant, jalons immuables sur sa route intérieure, confidents silencieux de ses envols, ses chutes, ses doutes. Pourquoi les avoir fuis ? Les avoir trahis. Invisible, sa compagne va devant. Sa voix dans le brouillard prend une étrange résonance. « Masoinda, est-ce vraiment le maître qui t'a envoyé là-bas ? Qu'attendait-il de toi ?» Singa lit-elle dans ses pensées, ou la commune solitude a-t-elle dicté la question à l'une comme à l'autre ? Elle revoit le maître sourire à sa demande de préciser une pensée exprimée après la plus sublime communion rituelle. Sans quitter d'un pouce le lieu où t'as posé ta vie, contemple en toi l'origine, afin de tout savoir de cette sphère qui la moule et ballotte l'univers. Tu peux, a-t-il répondu après un long silence, l'exprimer aussi de la sorte. Sans cesse chevauchant les 7 sphères qui ballotte l'univers, contemple en toi le lieu où t'as posé ta vie, afin de tout savoir de l'origine qu'elle moule. » Il avait émis au masculin sa première sentence, la seconde est venue au féminin. Le jour même, elle quittait le mont Xin. Lui avait-il vraiment signifié qu'elle avait à partir là-bas ? Et qu'attendait-il de sa disciple ? La quête de ce qui allait ternir le rayonnement transmis depuis la nuit des temps par les générations de maîtres ermites, afin de l'investir à défaut de le contrer. Durant ses 20 années d'absence, pas une fois Soinda ne s'est posé la question. Là-bas, on avait sacré la possession impératrice du monde. La compétition des avidités devait les réguler, générer l'harmonie. Pour l'accumulation de biens, objets superflus et autres symboles d'un statut enviable, on s'agitait frénétiquement, se ruait dans une illusion de jouissance, substitut de la plénitude et phare pour l'angoisse. Tous n'y accédaient pas, mais tous la convoitaient. Et ceux des ténèbres extérieures, comme les enfants de Melgor, étaient immolés sur son temple, où, la fantasmant, s'ébranlait en masse vers elle. Quant à ceux qui avaient prôné le dépassement des égoïsmes au nom de l'intérêt commun, prêts à se déliter, ils avaient tristement échoué. Parce que ce dépassement, cet intérêt commun, eux aussi ne l'avaient envisagé que matériel. Son initiation némoniale du mont Xin, experte dans la sublime communion rituelle des essences, lui a servi de clé pour ouvrir la caverne au trésor. Pour elle, ce que réprouvait la morale affichée, mais qu'exploitait sans vergogne l'impératrice possession, était un exercice spirituel. Dès qu'elle apparut dans les spectacles prohibés, en effaçant tout sordide, les haussant au rang d'art sacré, y élevant ses partenaires, les foules ont pressenti qu'une fêlure s'entr'ouvrait vers elle ne savait quoi. Elles ont pris d'assaut les salles. Les magazines qui se l'arrachaient ont vu quadrupler leur tirage, et elle a eu à ses pieds de richissimes armateurs, des vedettes adulées, des héros du sport. Les plus merveilleux sites ont encadré sa vie. Là-bas lui a prodigué l'extrême de ce que n'osent fantasmer ceux qui en espèrent tout. Plus qu'assez pour savoir que c'est l'heure arrachée à la conscience d'être. Elle s'est alors débarrassée de tout pour l'offrir aux exclus de l'abondance, leur prodiguant son rayonnement. Or, ils préféraient se complaire dans les comportements qui avaient été source de leur déréliction. Ils dévoraient ses dons, mais son rayonnement n'en avait que faire. Il les blessait plutôt. Dès lors, elle s'est retirée dans une pièce minuscule au sommet d'une tour pour y méditer, comme le maître sur le mont Xin. « Singa, le maître, t'a-t-il jamais dit ce que tu as à faire ?» Elles émergent dans l'absolue pureté. Au-dessus de leur tête, elles découvrent l'ermitage, environné de roches ocre et nues, avec dans ses replis quelques touffes d'inul ou de sauge, les étoiles blanches d'un saxifrage, le mauve tendre d'une dauphinelle. Les cimes des monts Karam et Futog se découpent sur l'horizon limpide, si proche qu'en étendant le bras, on pourrait les toucher. Du temps où elle portait les provisions, Soinda faisait ici une pause. Baignée de lumière, environnée des bourdonnements d'abeilles, elle s'y livrait aux exercices du corps et de l'esprit qui préparent à la sublime communion rituelle, afin d'être en grâce lorsqu'elle s'approcherait du maître. À cette altitude, rien n'a changé. « Masoinda, si c'est le maître qui t'a envoyé là-bas, même sans te le dire, qui là-bas t'a prié de revenir ?» Quel sens à son retour ? De même qu'elle a quitté le monastère pour l'ermitage et celui-ci pour là-bas, la décision s'est imposée. Là-bas règne désormais le chaos, ou plutôt il ne règne pas, mais ronge, démantèle, saccage. Dans sa rotation insensée, la roue des illusions a fracassé son axe, mais nul, ou peu s'en faut, n'a remis en question la mécanique bloquée. L'accumulation était comme cette drogue, offrant un plaisir de plus en plus fugace, mais dont le manque fait atrocement souffrir. Les foules ont envahi les rues, exigeant non qu'on change de machinerie, mais qu'on la remette en état. Et comme nul n'y parvenait, qu'à chaque pièce réparée une autre se brisait, la frustration s'est muée en fureur, faisant voler en éclats ses vitrines aux illusions désormais hors d'atteinte. De sa tour, Soinda entendait vociférer, voyait défiler, casser, piller, affronter en pagaille les forces de ce qui se prétendait l'ordre. Elle éprouvait une vacuité sans émoi, si ce n'était de la compassion, non pour la situation des foules, mais pour leur incapacité d'en appréhender l'origine et la nature, leur avidité de replonger dans le courant qui les y avait charriés. Des Crésus, d'ailleurs, y parvenaient très bien, découplant leur pactole sur les ruines qu'ils avaient provoquées. Descendue de sa tour, elle a parcouru les rues désertées par la foule après l'acmé de rage. Un homme en souffrance errait parmi les éclats, débris et détritus. Il s'est raccroché à cette ombre anonyme, ressassant jusqu'à l'ivresse emploi disparu, demeure perdue, famille, raison de vivre. S'il lui restait la mort, c'eût été trop d'injustice que de s'en aller seul. Il s'est laissé mener chez elle, enveloppé de sa compassion. Faute d'accomplir la sublime communion rituelle, inaccessible à quasi tous là-bas, elle lui a permis de s'oublier en elle, mais avec la conscience qu'elle ne l'apaisait pas. Le lendemain, avant de retourner son arme contre sa propre tempe, l'inconnu a perpétré un massacre de nababs et de politiciens réunis pour confronter leurs impuissances. Peut-être lui en avait-elle donné la force. Elle a pris le jour même un billet pour Melgor. Singa, qui t'a dit de naître à Melgor pour y devenir monial ? Mais mon père et ma mère, lorsqu'ils se sont unis, et qui a dit à ton père et ta mère de s'unir à l'instant où parmi toutes les potentialités en résulterait Singa et nul autre. Le maître accueille le soleil sur sa pierre, confaçonnée vent, pluie et neige. Sa fine robe de coton grège flotte sur une épure de corps. Son visage s'est encore émacié. Il a les yeux clos. Il sourit. Les deux femmes s'approchent. Rien en lui ne tressaille. A-t-il perçu leur présence? Elle veille à ne pas lui faire d'ombre. Mais dès que Singa s'est éclipsé dans l'ermitage pour déposer son fardeau, que Soinda s'est assise deux pas à l'écart, statue parallèle, un souffle s'ébranle de l'horizon, s'aiguise aux cimes des monts Karam et Futog, s'amplifie dans toutes les failles du mont Xin pour déferler au cœur de la moniale, tandis qu'une voix puissante s'ébranle jusqu'à la plus intime de ses fibres. « Sois la bienvenue chez toi, Soinda !» Le maître n'a pas tourné la tête, relevé les paupières, ni entr'ouvert les lèvres. Sa poitrine a cessé de soulever la robe de coton grège. Soinda se moule autant qu'il fuit, toujours pareil et toujours neuf. Elle était revenue couler au monastère les jours quillés d'une moniale. Son pèlerinage auprès du maître n'était en rien prémédité. Jamais elle n'a pensé que 20 années là-bas n'étaient que tortueuses initiations aux formes nouvelles qui s'imposeront au rayonnement des maîtres ermites du mont Xin. À présent, elle est prête.